petite fiction qui raconte la découverte en l'an 4850, en l'an 4860, des restes de Paris, de Londres, par des peuples qui sont néo-zélandais, africains, d'Amérique du Sud, par les colonisés qui redécouvrent les restes des colonisateurs. Donc ça, c'est vraiment une image assez classique dans la littérature, enfin pas classique, mais en tout cas qui existe déjà dans la littérature. Un des best-sellers, juste avant qu'on parle d'Anthropocène, du champ environnemental, c'était « The World Without Us » d'Alan Weisman, qui avait été traduit en français par « Homo disparitus », qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Et il fait une très belle expérience de pensée, qui est de dire, si on disparaissait d'un coup, si l'humanité disparaissait d'un coup, qu'est-ce qui resterait très longtemps sur la Terre? Et finalement, l'Anthropocène, c'est un peu une version scientifiquement correcte de cette question-là, qui hante, si vous voulez, l'élite... L'élite savante des sociétés capitalistes depuis bien longtemps. Un autre aspect aussi qui est très ancien, à mon avis, et qui explique une grande partie du succès du concept d'Anthropocène, c'est l'esthétique du sublime, qui est très présente en fait dans le discours de l'Anthropocène. On a une reprise finalement de ce sentiment de sublime, donc à la fois de plaisir et aussi de peur, de terreur, de terreur sacrée. Dans cette notion d'Anthropocène. La notion d'Anthropocène fait quelque chose d'un peu plus spécifique. En gros, elle transfère le sublime de la vaste nature, qui est le sublime classique, on va dire, du XVIIIe siècle, sur l'espèce humaine. Et finalement, on reporte sur l'espèce humaine la terreur sacrée que devait inspirer la vaste nature majestueuse qui soudainement manifeste son omnipuissance. Alors, ça a plein de problèmes. Bon, le problème, on a déjà beaucoup parlé, je ne vais pas insister, mais c'est évident que ce faisant, en transférant des affects qui étaient propres à la nature sur l'espèce humaine, on naturalise évidemment l'anthropose de l'anthropocène. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est évident, hyper connu, c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. C'est évidemment pas un anthropose générique qui nous a fait rentrer dans l'anthropocène. Je m'étais amusé simplement à regarder les émissions de CO2 de deux pays, l'Angleterre et les États-Unis, dans l'histoire. Et c'était évident que l'anthropose de l'anthropocène avait un fort accent anglais, puisque en 1950, c'est 55% des émissions qui viennent simplement de deux pays, l'Angleterre et les États-Unis, en émissions cumulées. Ce qui fait que ce n'est même pas une affaire nord-sud, c'est vraiment une affaire anglo-saxonne, le charbon et le pétrole. C'est vraiment les anglos, je veux dire la France qui est encore massivement paysanne au 19e siècle, qui recourt beaucoup à l'énergie hydraulique, très peu au charbon, n'a absolument aucun rôle dans l'anthropocène assez tard, si vous voulez, dans l'histoire. Et encore plus les paysans français qui avaient accès à aucun charbon au 19e siècle. Je m'étais amusé, enfin là en ce moment je travaille sur les... C'est un petit détour, mais je travaille sur les budgets ouvriers de l'école leplésienne pour regarder ça sous un angle énergétique. On a beaucoup de budgets des années 1860. Les ouvriers français, mais c'est plus généralement l'Europe continentale qui ont accès au charbon, se comptent sur les doigts d'une main. C'est rarissime, les gens qui se chauffent au charbon, qui s'éclairent au gaz d'éclairage, il n'y en a absolument aucun. Donc on est vraiment dans des économies organiques très tard dans le 19e siècle. Donc voilà, il faut vraiment être un peu rigoureux, évidemment, sur c'est qui cette anthropose de l'anthropocène. Et on voit que c'est une toute petite partie de l'humanité, bien entendu. Autre chose qu'on avait fait, donc ça c'est avec Christophe Bonneuil, on avait utilisé les travaux de l'écologie sociale de Vienne pour essayer de matérialiser qu'est-ce que ça pouvait dire ce capitalocène dont on nous rebat les oreilles. Ça tient relativement bien, c'est-à-dire que, en particulier dans la période après 1950, au moment de ce qu'on appelle la grande accélération, il y a vraiment une spécificité du métabolisme de l'Europe occidentale et des États-Unis. Ce que vous avez devant vous, ça représente les flux de matière, la balance commerciale physique de 6 groupes de pays. Et en gros, la courbe du haut, ça veut dire qu'il y a un groupe de pays qui est tout à fait spécifique, c'est donc États-Unis et Europe de l'Ouest. Et c'est le seul groupe de pays qui est massivement déficitaire en matière. Ce qui veut dire que les pays capitalistes ont vraiment réussi à s'enrichir en drainant de la matière à l'échelle du globe. À l'inverse, par exemple, l'Union soviétique, qui se trouve ici, on ne voit pas très bien, mais c'est une courbe qui décroît même. L'Union soviétique est évidemment un désastre environnemental. Elle, par contre, n'a pas réussi à drainer cette matière-là. Et elle dégrade son propre environnement bien plus qu'elle ne dégrade l'environnement des autres, à l'inverse des pays riches capitalistes. Donc il y a bien quelque chose de tout à fait spécifique au capitalisme, quand on le regarde comme un système de flux de matière, si vous voulez, au niveau global, il y a tout à fait une spécificité. Donc ça fait vraiment sens, à mon sens, de parler de capitalisme. Mais bon, c'est un débat que je ne trouve pas hyper intéressant, donc je ne vais pas insister. La chose qui me semble le plus problématique dans ce sublime de l'anthropocène, c'est que c'est aussi un sublime de la révélation scientifique. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez surprenant, c'est à quel point les acteurs principaux du concept d'anthropocène, ceux qui ont lancé ce mot sur le marché des idées, insistent sur le caractère proprement révolutionnaire de ce concept. Donc vous avez là par exemple un texte de Grünewald, Crutzen et MacNeill hein, qui a fait date. Il se compare volontiers à Darwin dans d'autres textes, c'est Copernic. Enfin voilà, on a vraiment une sorte de sublime de la découverte scientifique qui viendrait soudainement éclairer une humanité un peu aveugle avant que les sciences du système Terre n'acquièrent leur légitimité scientifique. Alors je trouve ça un peu embêtant pour plein de raisons. Une raison principale, c'est qu'en insistant sur la nouveauté des savoirs sur la Terre, en fait, on insiste aussi sur une nouvelle capacité d'agir sur la Terre. Et c'est évidemment pas un hasard que les promoteurs de l'Anthropocène, enfin, un groupe de promoteurs de l'Anthropocène, insiste sur l'importance de la géo-ingénierie comme vraiment une technologie dont il ne faut pas fermer... Faut pas fermer la porte à la géo-ingénierie en disant que c'est vraiment une des technologies possibles pour nous sortir de la crise climatique, c'est d'agir directement sur le système Terre en agissant sur l'albédo terrestre. Donc il y a vraiment un discours qu'on appelait du géopouvoir dans ce discours de l'Anthropocène qui est très problématique et qui se fonde sur cette idée de savoir entièrement nouveau sur la Terre. En gros, on aurait une narration suivante. Pendant 200 ans, on était dans un Anthropocène bête, un anthropocène inconscient, et maintenant que la Terre est devenue un agent géologique conscient, hein, c'est un peu ce sublime aussi de la dernière scène de Stanley Kubrick, maintenant que la Terre est devenue un agent planétaire conscient, on va faire un bon anthropocène, on va entrer dans un bon anthropocène. Voilà, donc le but de mon propos, c'est de vous montrer à quel point en fait l'ontologie du système Terre, la vision de la Terre comme un tout, comme quelque chose d'intégré, qui est traversé de flux de matière et que ces flux de matière concourent à l'habitabilité de certaines parties du globe, c'est en fait un discours extrêmement ancien, c'est une vision de la Terre extrêmement ancienne. Donc ce que je voudrais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que l'argument se situe vraiment au niveau ontologique. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire que les savoirs sur le changement climatique sont les mêmes, évidemment, que maintenant et au XVIe siècle, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'ontologie du système Terre qui sous-tend le discours de l'Anthropocène et de la prise de contrôle du globe par l'humanité, hein, en agissant sur ces flux de matière, est en fait extrêmement ancien. Et pour bien avoir ça en tête, il faut remonter, à mon avis, en juillet 1494, quand Christophe Colomb, lors de son second voyage, alors qu'il navigue entre Cuba et la Jamaïque, endure les pluies diluviennes de l'été tropical. Et ça surprend énormément Christophe Colomb. L'expédition est vraiment en mauvaise posture. Hein. Pendant plusieurs semaines, elle dépend uniquement du secours des Indiens. Et dans cette situation critique, Christophe Colomb aurait eu la réflexion suivante. Là, je vais vous citer le texte en français. C'est un texte en italien, en fait. Le ciel, la disposition de l'air et du temps à ces endroits sont les mêmes que dans les environs, à savoir que chaque jour, à l'heure des vêpres, apparaît un nuage avec de la pluie qui dure une heure, quelquefois plus, quelquefois moins, ce qu'il attribuait aux grands arbres de ce pays. En fait, c'est le fils de Christophe Colomb, Fernando Colombo, qui, dans la biographie de son père, explique ça. La preuve que Christophe Colomb apporte du lien entre les forêts et les précipitations et la pluie est la suivante. Il savait par expérience qu'il en avait été de même auparavant aux Canaries, à Madère et aux Açores, mais que depuis que l'on y avait coupé les arbres qui les encombrent, c'est le mot incomblavano qui est utilisé là, c'est important, il ne se génère plus autant de nuages et de pluie qu'avant. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est finalement d'où vient cette idée que les arbres génèrent la pluie, et pourquoi c'est important pour Christophe Colomb. Alors, pourquoi c'est important pour Christophe Colomb? Parce qu'il faut savoir qu'au moment de la deuxième expédition de Colomb, l'un des objectifs, c'est vraiment d'acclimater la canne à sucre dans les terres nouvellement découvertes, aux Caraïbes. C'est une expédition, donc il y a beaucoup plus de monde évidemment que la première expédition, et il emporte avec lui des plants de canne à sucre dès la deuxième expédition. Donc. C'est d'autant plus important qu'il doit convaincre ses bailleurs de fonds, ses protecteurs, Ferdinand et Isabelle au premier chef, que les lieux qu'il découvre sont des lieux justement pleinement habitables, alors qu'ils se situent dans la zone torride, une zone qui est supposée être vide d'hommes selon la géographie antique. Et c'est pour ça que dans son journal, il y a des tonnes de références au climat absolument enchanteur que Christophe Colomb découvre. Il explique par exemple que le climat dans la Jamaïque est aussi agréable que celui d'une nuit de mai en Andalousie. Donc il y a vraiment cette idée qu'il faut bien contraster les possessions que sont en train d'acquérir la couronne espagnole, contraster ces possessions-là avec les possessions portugaises, et il insiste sur le fait que, par contre, la côte guinéenne, c'est épouvantable, on y attrape des maladies terribles, etc. Là, au contraire, on est vraiment dans un climat parfait pour développer des colonies. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout d'où vient cette idée que les arbres causent la pluie. Il faut savoir que cette idée vient du fait que Christophe Colomb a vécu en direct le premier choc écologique de l'histoire, à mon avis, à savoir la conquête des Canaries et de Madère. Il a épousé Felipa Moniz, qui est la fille du conquistador de Porto Santo, qui est une des îles de l'archipel de Madère. Et Porto Santo, Madère et une partie des Canaries, dans la décennie 1470, au moment où Christophe Colomb d'ailleurs habite un temps à Madère, dans la décennie 1470, c'est un boom sucrier sur ces îles-là. Il y a tout plein de narrations d'érudits et de voyageurs de cette époque qui expliquent, qui rendent compte du fait que c'était un choc écologique. Par exemple, le propre beau-père de Christophe Colomb, donc le père de sa femme, aurait amené avec lui à Porto Santo des lapins qui auraient tellement mangé toutes les graines que la culture, enfin, ils seraient multipliés, proliférés, ils auraient rendu la culture impossible parce qu'ils bouffaient les graines dès qu'on les mettait dans le sol. Il y a d'autres récits sur les immenses feux de forêt qui ont permis de dégager Madère de toutes ces forêts. Madère, c'était une ville vierge avant l'arrivée des Portugais. Et donc, on a des récits vraiment de quelque chose d'extrêmement violent, d'un choc écologique très violent. Et en particulier, Madère devient la capitale de la production sucrière dans ces décennies-là, ce qui suscite une très forte déforestation. À tel point que donc Funchal, ça c'est l'image que vous avez là, Funchal, la capitale de Madère, est obligé d'importer du bois dans les années à la fin du XVIe siècle, parce qu'ils veulent se reconvertir dans l'exportation du vin. Ils n'ont même plus le bois pour fabriquer leurs tonneaux pour exporter leur vin. Le raffinage du sucre consomme tellement de bois, si vous voulez, qu'ils ont tellement déboisé en très peu de temps, qu'ils sont obligés d'importer du bois d'Amérique du Nord pour pouvoir exporter leur vin de Madère à la fin du XVIe siècle. Donc on a vraiment un très grand choc écologique que Colomb a vécu en direct. Donc il est très au courant de ce que la déforestation fait. Alors le lien entre déforestation et climat vient sans doute d'un prodige bien particulier qui est le prodige de l'arbre saint. L'arbre saint, c'est un arbre qui aurait poussé au sommet de l'île de Fer, de la Isla de Hierro, donc l'île la plus à l'ouest des Canaries. Et selon des chroniques du Moyen-Âge, donc déjà au XIVe siècle, on connaissait en fait ce prodige de l'arbre saint, cet arbre a eu la capacité de capter les nuages qui circulent dans l'atmosphère et de résoudre ces nuages-là en pluie. Et les Guanches, qui sont un peuple berbère qui vivait aux Canaries, et qui ont lutté longtemps contre la conquête espagnole, auraient eu la connaissance de ce prodige-là. C'est ce qui aurait empêché les Espagnols de conquérir rapidement l'île, c'était le manque d'eau pour approvisionner leurs troupes et leur bétail. Et le point important, c'est que Christophe Colomb connaît ce prodige-là, qui est très connu en fait au XVe et XVIe siècle dans la littérature espagnole. Et il s'y intéresse sans doute parce que l'île de Fer, c'est l'île donc la plus à l'ouest des Canaries, c'est une île très célèbre pour les cosmographes espagnols, puisque c'est le point zéro, si vous voulez, des cosmographes espagnols, c'est le méridien de l'époque. Ptolémée l'avait utilisé comme méridien, d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement connu tout au long du XVe et XVIe siècle. Alors l'importance de cet arbre saint dans le reste de l'histoire sur le changement climatique, c'est qu'en fait, c'est souvent en référence à ce prodige-là que s'amorce une réflexion sur le rôle de la végétation dans le climat, et en particulier dans la production des pluies. Et donc, vous allez me dire, finalement, c'est quoi le rapport avec l'Anthropocène, tout ça, et le rapport avec le système Terre ? C'est qu'il faut bien voir que le début de l'histoire de l'Anthropocène, si on est sérieux, si on est rigoureux en termes d'émissions de CO2, c'est évidemment la déforestation. Selon certaines estimations, les émissions de CO2 liées à la déforestation sont plus importantes que les émissions de CO2 liées à la combustion des fossiles jusque dans les années 1900. D'accord ? Donc la première moitié de l'histoire de l'Anthropocène, c'est d'abord une histoire de déforestation, si vous voulez, bien plus qu'une histoire d'émissions de fossiles. Le charbon a un rôle tout à fait marginal dans le monde économique global, si vous voulez, encore à la fin du XIXe siècle. Il n'y a que l'Angleterre qui a une voie comme ça précoce d'industrialisation vers le charbon. Mais fondamentalement, ce qui transforme l'environnement, ce qui commence déjà à altérer le climat, c'est la déforestation. Or, s'il y a une transformation environnementale qui a été bien remarquée, bien tracée, qui a suscité énormément de réflexions, d'inquiétudes, voire même de paniques, tout au long des 17e, 18e et 19e siècles, c'est bien la question de la déforestation. Et ça, c'est des questions qui se posent déjà en termes globaux. L'arbre saint donc, de l'île de Fer est très célèbre chez les empiristes anglais du XVIIe siècle. Pourquoi ? Parce que, ça c'est quelque chose qui je trouve très important à savoir en termes d'histoire des sciences, pour les Anglais des années entre 1620 et 1660, pour les gens comme Bacon jusqu'à Boyle, si vous voulez, la grande puissance de l'époque, c'est l'Espagne. Le modèle, si vous voulez, économique et politique, c'est la couronne espagnole. Vous savez sans doute que le frontispice, enfin vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, le frontispice du Novum Organum de Bacon est repiqué en fait d'un traité de navigation espagnol de 1610, où on voit, vous savez, ce bateau qui passe à travers les colonnes d'Hercule. C'est vraiment évidemment l'Espagne qui est le modèle. La New Atlantis de Bacon est aussi inspirée de l'Empire espagnol. La géographie la place clairement dans le Pérou qui est en train d'être découvert à ce moment-là. Et dans ce cadre-là, Bacon parle du prodige de l'arbre saint, parle de l'île de Fer. Enfin, c'est quelque chose qui est très connu et qui va intéresser beaucoup les philosophes anglais à partir de 1666 en particulier, après une grande sécheresse qui a lieu en Angleterre, qui aboutira d'ailleurs à l'incendie de Londres en 1666. Et c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, que une vision plutôt positive de la déforestation qu'on trouve encore chez Christophe Colomb, hein, parce que Christophe Colomb, l'idée, c'est on va déforester, j'aurais dû dire ça, j'ai été confus, désolé. En gros, l'idée de Christophe Colomb, c'est les arbres encombrent l'île. On va couper les arbres des Caraïbes et ça va normaliser le climat, ça va transformer le climat caribéen, qui est étrangement humide, en un climat équivalent à celui des Canaries. Et donc ça va permettre de faire le même boom sucrier, de refaire le boom sucrier des Madères et des Canaries, de refaire ça dans les Caraïbes. J'ai pas précisé ça d'entrée de jeu. De ce que j'ai vu dans les premiers discours sur le changement climatique dans les Caraïbes, en particulier un texte de Fernando de Oviedo en 1548 qui écrit trois pages sur le changement climatique extrêmement impressionnante, c'est vu comme quelque chose de positif. Le plus beau texte, à vrai dire, sur ces affaires-là, donc c'est un texte de Fernandez de Oviedo. Et Fernandez de Oviedo, il faut savoir qu'il est en lutte constante contre Bartolomé de las Casas sur la légitimité de la possession des Indes. Et le changement climatique qu'il affirme exister en 1548, hein, et il dit tout le monde d'ailleurs est d'accord là-dessus, c'est-à-dire j'ai discuté avec les indigènes, avec les Indiens, ils disent que le climat a changé, les colons espagnols disent que le climat a changé, ceux qui sont là depuis longtemps s'en rendent bien compte, donc il explique vraiment, ça, pour lui c'est évident qu'il y a un changement climatique très fort, un refroidissement climatique en 1548, et il explique donc finalement ce changement climatique, c'est une manière de sanctifier la nouvelle possession espagnole sur les Indes, évidemment. L'enjeu est même, à vrai dire, assez subtil. Bon, vu qu'il y a le terme race dans l'intitulé de la journée, je voudrais quand même parler de ça, c'est assez important en fait. Le climat, évidemment, a un rôle très important pour justifier l'esclavage dans les théories impériales espagnoles. Pourquoi ? Parce qu'il se fonde sur la théorie de l'esclave naturel d'Aristote. La théorie de l'esclave naturel d'Aristote, c'est le fait que les populations qui habitent dans les zones torrides, chaudes, n'ont pas les sens raffinés, n'ont pas l'intellect pour se gouverner eux-mêmes. Et donc il y a une légitimité de l'impérium grec, puis de l'impérium romain, parce que Pline reprend exactement cette théorie-là, pour subjuguer les populations, à la fois du nord, parce qu'ils ont pas, ils sont vaillants physiquement, mais ils sont trop barbares, et à la fois du sud. Et les impérialistes espagnols, Sepúlveda en particulier, reprend exactement cette théorie de l'esclavage naturel, qui est une théorie fondamentalement climatique. Fernandez de Oviedo est un grand marchand d'esclaves. Il a à un moment travaillé sur la terre ferme pour trafiquer les esclaves et approvisionner en particulier les mines d'esclaves en esclaves. Et donc, au moment de la controverse des Indes, de la controverse de Valladolid, il se trouve du mauvais côté de la controverse. Il perd la controverse contre Bartolomé de las Casas, puisque vous savez que le système de l'encomienda va être aboli. Et pour lui, à mon sens, parler de changement climatique, c'est aussi une manière de justifier sa propre pratique esclavagiste, c'était de dire finalement dans un premier temps l'esclavage était légitime, naturel, parce qu'on était effectivement dans une zone torride, et il insiste sur le côté on crevait de chaud, c'était étouffant les Caraïbes au début, et avec la souveraineté espagnole qui adoucit le climat, il dit ça très clairement, la souveraineté espagnole adoucit les Indiens et adoucit le climat, à la fois, c'est vraiment dans le même sens. Finalement, on change de climat, et à partir de là, c'est normal que l'esclavage devienne quelque chose, enfin, qu'on interdise, que l'esclavage soit fini, puisque c'était finalement une, si vous voulez, une simple période qui se termine du fait du changement climatique. Cette relation entre climat et race est fondamentale en fait dans tous les discours espagnols et créoles sur les Caraïbes et au Mexique aussi on trouve ça, puisque il y a deux possibilités. Soit le climat s'adoucit, devient européen, on va dire, et dans ces cas-là, ça veut dire que les enfants espagnols nés au Mexique ou dans les Caraïbes ne subissent pas les mêmes influences délétères climatiques qui produisent la dégénérescence des Indiens. Donc ça, c'est une première manière de préserver, si vous voulez, l'identité espagnole et la race espagnole. C'est d'imaginer que le climat, grâce aux Espagnols, devient analogue à celui de l'Espagne. Donc ça, c'est la théorie d'Oviedo, si vous voulez. Il y a une autre théorie qui est très importante, qui a été bien étudiée par Canizales de Esguerra, un historien américain. Canizales de Esguerra explique que, selon lui, les créoles espagnols, en particulier au Mexique, les criollos inventent une idée de race comme quelque chose qui est très séparé de l'environnement. Si vous voulez, dans les théories aristotéliciennes, dans les théories de la Renaissance, la race est quelque chose de très malléable. La race est complètement façonnée par l'environnement, le climat en particulier. Et Canizales de Esguerra explique que chez les créoles, on trouve très tôt une théorie raciale très forte, où au contraire, l'environnement est assez peu influent, si vous voulez, sur la race. Et ça permet, une fois encore, de justifier aussi du fait que les créoles, finalement, ne dégénèrent pas sous l'influence, si vous voulez, néfaste d'un climat différent. Donc, ces affaires de changement climatique sont toujours à relier à des questions très lourdes de justification de la souveraineté espagnole, de justification d'un empire global de Charles Quint, et sont aussi liées à des questions complexes de qu'est-ce que c'est que la race de ces créoles qui naissent finalement sur ces territoires néocolonisés. Alors, désolé, c'était en fait une sorte de détour dans l'argument principal. L'argument principal, c'est de dire finalement, cette affaire d'arbre saint qui peut sembler anecdotique, elle est très importante dans la philosophie naturelle du XVIIe siècle, parce qu'elle enclenche cette réflexion sur le cycle global de l'eau. Ce que vous avez là, c'est une représentation, c'est exactement ça, une représentation globale du cycle de l'eau par Burnett, Thomas Burnett, en 1684. La question, si vous voulez, de qu'est-ce que la colonisation fait et qu'est-ce que donc la déforestation fait sur le cycle de l'eau est une question vraiment importante dans la philosophie naturelle du XVIIe siècle. Pourquoi ? Parce que la colonisation, c'est pensé d'abord comme une altération du couvert végétal. D'ailleurs, le mot en anglais pour dire colonie, c'est plantations au XVIIe siècle. On parle de plantation. On ne parle pas de colonie au XVIIe siècle en Angleterre. On parle d'abord de plantation. Donc, si vous voulez, le phénomène de colonisation, c'est d'abord un phénomène de changement du couvert végétal. Dans le cadre de la théologie naturelle, où on estime que la création, c'est une création, hein, que le monde est une création, donc c'est quelque chose qui a été organisé par une puissance infiniment supérieure pour assurer l'habitabilité des zones tempérées. C'est exactement ce que montre, excusez-moi ce graphique, j'aurais dû le commenter. En gros, l'idée, c'est que les eaux océaniques des zones tropicales s'évaporent et dans un cercle, dans une sorte de grand cycle majestueux, assurent les pluies sur les zones tempérées et assurent donc l'habitabilité de l'Europe, quoi, pour dire les choses simplement. Et donc l'enjeu, c'est de savoir finalement qu'est-ce que la colonisation et la déforestation qu'elle accompagne fait à ce cycle providentiel et divin de l'eau. C'est une question qui est prise au plus haut niveau, et avec mon collègue Fabien Locher, on étudie par exemple les réflexions que les Anglais mènent sur qu'est-ce que la déforestation fait sur le climat d'Amérique du Nord. John Winthrop, qui est le gouverneur d'Amérique du Nord, est reçu à la fin des années 1660 par Charles II, donc le roi anglais, pour savoir si effectivement le climat s'améliore, comme l'indiquent certains colons. L'enjeu, c'était aussi de dire, il fait quand même très froid en Amérique, à la même latitude qu'en Europe, est-ce qu'on peut espérer avoir une amélioration climatique ? Est-ce que la colonisation vaut le coup ? Et la question se pose de la même façon pour la Nouvelle-France, puisqu'on a des récits épouvantables de l'hiver au Canada par les premiers explorateurs, les premiers colons français au Canada. Donc vraiment, c'est un enjeu très prosaïque de... est-ce que la colonisation vaut le coup ? Parce que c'est d'abord une colonisation agricole hein, qu'on peut faire, évidemment. Est-ce que la colonisation vaut le coup ? Est-ce qu'elle est sanctifiée par Dieu ? C'est ces deux questions qui sont étroitement reliées. Alors, le changement climatique est vu et la déforestation et le changement climatique sont vus plutôt comme positifs, on va dire, au XVIIe siècle. Et puis à la fin du XVIIIe siècle, il y a un basculement très net et très concret du discours sur le changement climatique, où au contraire, on est dans un catastrophisme terrible. Ça, c'est un frontispice d'un mémoire qui est envoyé à l'Académie de Lyon sur comment construire des cheminées plus efficaces, sachant que l'enjeu, c'est le problème. Enfin, c'est en 1784, on a eu un grand hiver, on a une pénurie de bois à Paris, le prix du bois explose, enfin, toutes les grandes villes, le prix du bois explose, et il y a l'inquiétude que les forêts françaises diminuent. Et donc, la personne qui écrit ce mémoire fait le lien entre la déforestation et l'équilibre du globe en disant finalement, quand on déforeste, on risque de couper le petit fil, si vous voulez, qui maintient la Terre à la place où elle est, quoi. Donc, c'est un peu ce type d'enjeu qui se met. Après la Révolution française, et la France est vraiment importante hein, dans la construction des savoirs sur le changement climatique, après la Révolution française, il y a une très forte inquiétude qui est une manière aussi d'incriminer les révolutionnaires qui auraient mal géré le couvert forestier français. Une très forte inquiétude qui se retrouve très bien dans le gouvernement de la Restauration. En 1821, le ministre de l'Intérieur lance une grande enquête sur le changement climatique en France liée à la déforestation, à la Révolution. Une enquête où tous les préfets répondent, donc ça donne des sources intéressantes. C'est à ce moment-là aussi que certains acteurs, comme par exemple François-Antoine Roche, qui est un forestier français, lance une revue qui s'appelle Les Annales européennes, qui traite exclusivement de cette question de la déforestation et en particulier du changement climatique. Et je tire cette gravure de cette revue-là. Là, ce qu'il est en train de dire, finalement, c'est une forme de mise en garde pour les gouvernements européens. Si vous n'avez pas une politique de conservation forestière forte, vous allez produire un changement climatique, vous allez produire une dégénérescence de la race, et vous allez aboutir à la même catastrophe que l'Orient. Évidemment, ça, c'est les ruines de Babylone, hein, avec une forme de racisme environnemental très fort, puisque l'enjeu, c'est pas simplement le climat, mais c'est évidemment ce que le climat fait sur les formes humaines. Alors, la suite de l'histoire que je ne vais pas avoir le temps de vous raconter, parce que, évidemment, le temps va me manquer, c'est de dire... Alors, première remarque, l'argument de dire, finalement, on aurait séparé l'histoire humaine et l'histoire de la nature, et puis, avec l'Anthropocène, enfin, les deux choses se rejoindraient, ça, c'est un argument faux. C'est un argument à la fois pompier, et c'est un argument faux, tout simplement parce que quand vous prenez les textes du XVIIIe siècle, les textes historiques du XVIIIe siècle, hein, Gibbon et autres, Pelloutier, Ignace Hart et plein d'autres, ils font systématiquement ensemble l'histoire des peuples et l'histoire du climat. Et c'est normal puisque les peuples, en tant qu'entité biologique, transforment le sol et à ce moment-là transforment le climat et permettent la mise en place d'un cercle vertueux qui entraîne mise en culture du sol, amélioration climatique, développement de la civilisation. Donc, cette histoire-là, elle est fondamentalement une histoire climatique déjà au XVIIIe siècle. Ça, c'est vraiment très très clair. Deuxièmement, il faut voir qu'à la fin du XVIIIe siècle, la Terre n'a pas une ancienneté très grande. Chez Buffon, elle a 70 000 ans. La théorie de la Terre de Buffon, c'est que vous savez, la Terre est un morceau du Soleil qui se refroidit peu à peu. Et on ne peut rien faire contre ça. Dans tous les cas, on aboutira à la mort thermique du globe. Mais selon Buffon, qui est encore dans une forme d'optimisme climatique, grâce à la déforestation, grâce à la mise en culture du sol, on peut contrecarrer ce refroidissement climatique parce que déforester réchauffe le climat. Mais en tout cas, on est vraiment dans une forme d'anthropocène, de good anthropocène, si vous voulez, d'anthropocène vertueux chez Buffon, où l'action de l'homme améliore fondamentalement l'habitabilité du globe. Le troisième point, à mon avis, qui est important à bien avoir en tête, c'est qu'encore au XIXe siècle, la chimie, en particulier la chimie organique qui va étudier la circulation des constituants de la vie, hein, s'inscrit dans une forme de théologie naturelle, de providentialisme. Et si vous voulez, les chimistes des années 1830-1840 transposent la métaphore astronomique de l'univers comme horloge, enfin, du système solaire comme une horloge parfaite, hein, des débats de Laplace, etc., que vous avez tous en tête, ils transposent ça dans l'ordre de la chimie en disant le monde terrestre est structuré par une multitude de petits cycles de matière qui concourent à l'habitabilité de la Terre. Et par exemple, on s'intéresse beaucoup au cycle du carbone à ce moment-là, évidemment, du fait qu'on brûle beaucoup de charbon. Et George Fownes, un chimiste théologien naturel anglais, explique que le fait qu'il y ait que 2% de CO2 dans l'atmosphère, et que de ces 2% de CO2 de l'atmosphère dépendent toute la vie, puisque la végétation dépend de ça, et donc tous les animaux dépendent de ça, ça montre bien que, si vous voulez, il y a une providence divine qui a organisé la circulation de la matière sur la Terre. Évidemment, la question, c'est qu'est-ce que l'industrie avec fait dans ce fait dans ce sur cette horloge chimique infiniment complexe. Alors, je voudrais conclure sur une citation de Eugène Huszár en 1855, puisque j'en ai parlé au début, hein, ce philosophe catastrophiste français méconnu, mais qui mériterait d'être découvert. Eugène Huszár écrit finalement, en 100 ou 200 ans, le monde est sillonné de chemins de fer, de bateaux à vapeur, le monde étant couvert d'usines, de fabriques, le monde dégagera des milliards de mètres cubes d'acide carbonique et d'oxyde de carbone. Et comme les forêts auront été détruites, ces centaines de milliards d'acide carbonique et d'oxyde de carbone pourront bien troubler un peu l'harmonie du monde. Voilà. Donc j'espère, ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est finalement, ce qui est étonnant, c'est qu'on puisse prétendre redécouvrir qu'on vit dans l'Anthropocène, alors qu'on sait très bien qu'on vit dans l'Anthropocène depuis au moins 200 ans. Donc voilà. Je vous remercie.
Petite question toute simple sur ton titre. En fait, l'autre découverte de Christophe Colomb, associer le mot découverte à Christophe Colomb est très problématique. Et du coup, même si tu mets en parallèle Christophe Colomb et cette genèse en fait d'une préoccupation de déforestation, changement climatique, en reprenant le terme de découverte, est-ce que tu finalement ne maintiens pas cette vision coloniale de l'Anthropocène?
Alors, le titre, en fait, c'est un journaliste de El País, hein, qui l'a inventé, donc je dois dire que j'avais parlé de ça une fois dans un congrès en Espagne. Il y avait un journaliste qui avait trouvé ça intéressant, qui m'avait demandé d'écrire un article pour El País. Et donc, c'est vrai que ce titre choc est évidemment lié au champ médiatique, on va dire. Voilà. Évidemment que c'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, qui a été découvert par des humains à la précédente période glaciaire. Donc effectivement, non, c'est complètement débile de parler de découverte de l'Amérique. Je suis au courant. Voilà. Bon, c'est juste un titre choc.
Ça, du coup, quand tu reprends le mot découverte, est-ce que moi, la découverte du champ médiatique, est-ce que c'est quelque chose que tu veux maintenir ou est-ce que ça...
Non, alors en plus, Christophe Colomb ne découvre pas en tant que tel le changement climatique. En fait, il faudrait rentrer dans une histoire des idées plus longue, mais en gros, le changement climatique n'a pas besoin d'être découvert parce que dans la météorologie d'Aristote, en fait, la météorologie est tributaire très fortement de ce qui se passe sur le sol, des volcans, de l'hydrologie, du couvert forestier également. Donc il y a déjà, par exemple, ça. Très clairement, chez Théophraste, un naturaliste grec du 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais fondamentalement, personne n'a lu Théophraste, donc ce n'est pas très important, mais c'est plutôt Aristote, les météorologiques, qui font qu'il n'y a pas de scoop, finalement, à dire quand on agit sur le sol, on change le climat. Ça, c'est vraiment, à mon avis, le truc important, c'est qu'il faut sortir d'une histoire des découvertes et des précurseurs. Et Christophe Colomb, disons, est assez original quand même quand il met ça en avant, dans un contexte colonial. Ça, je le maintiens. Je pense que c'est possiblement le premier à le faire, parce que j'ai, disons que, concrètement, ce qui est intéressant dans l'historiographie récente, c'est d'insister sur la découverte, entre guillemets, c'est évidemment d'insister sur le côté laboratoire des Canaries et de Madère, puisque c'est là où s'inventent, en fait, les pratiques essentielles, l'encomienda. Vraiment, il y a un côté hyper important, c'est que, si vous prenez Martile de Anguiela, Pigafetta, enfin, les premiers grands chroniqueurs du Nouveau Monde, les Canaries, ça fait partie de l'histoire. Je veux dire, il n'y a pas de truc particulier à découvrir de l'Amérique. On a un premier chapitre sur les Canaries. En gros, la conquête des Caraïbes et de l'Amérique, c'est dans la continuité de ce qui se passe depuis 50 ans ou 60 ans aux Canaries et à Madère. Et aussi sur la côte africaine par les Portugais. Donc on a vraiment une histoire très continuiste à l'époque. C'est nous qui avons plaqué cette découverte de l'Amérique qui est une absurdité. Donc, une fois que j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça ? Oui, et je n'ai pas trouvé de texte. J'ai regardé toutes les chroniques de la découverte des Canaries, etc. Bon, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est facile, mais il ne parle jamais de changement climatique. Colomb, à mon avis, est quand même un des premiers à relier la question de la colonisation et la question du changement climatique. Il le fait dans un cadre assez restreint, donc je vous ai expliqué, c'est pour expliquer qu'en fait, les Caraïbes, ça va être des Canaries bis, sachant que les Canaries, c'est vraiment un cœur battant du système économique méditerranéen à l'époque. Hein. Ils produisent beaucoup plus de sucre que tout ce qu'on avait produit à Chypre avant, au Moyen-Âge. C'est vraiment une transformation profonde de l'économie sucrière grâce à Madère et aux Canaries. Et la célébrité de cette affaire de l'arbre saint fait que c'est une idée qui va diffuser très très vite, si vous voulez, au moment de la Renaissance, parce que cet arbre saint, ça fascine pour plein de raisons. Ça évoque des trucs bibliques, ça évoque des romans de chevalerie. Enfin, il y a plein de raisons qui font que l'arbre saint est extrêmement célèbre. Voilà. C'est pour ça que quand je parle de découverte, c'est sans doute exagéré. Et en même temps, je pense qu'il se cristallise à quelque chose, une trope, si vous voulez, qui va devenir importante dans la littérature scientifique, enfin savante, de philosophie naturelle de l'époque.
Je me demande s'il n'y a pas un hiatus, en fait, entre le récit que tu fais et le rôle argumentatif que tu veux lui faire jouer. Donc je comprends bien l'intention qu'il y a à relativiser ou à produire un effet de déflation sur ce grand spectacle de l'Anthropocène, et c'est de regarder sur une histoire un peu plus profonde si on n'a pas des choses qui ressemblent à ça. Donc là, c'est effectivement un bon exemple. Mais je me demande si, en fait, paradoxalement, dans cette surcroît de profondeur historique, il n'y a pas un effet de déshistoricisation du concept de climat lui-même. C'est-à-dire qu'on comprend bien dans tout ce que tu expliques, et d'ailleurs tu l'as dit, mais tu l'as dit à l'instant, en fait c'est des trucs qui sont connus depuis très longtemps, au moins depuis l'Antiquité, probablement en fait depuis qu'il y a des sociétés qui coupent des forêts, hein, on s'en rend compte tout de suite que ça assèche le climat.
Je crois pas que couper une forêt assèche le climat sur une île, ça c'est une bêtise en fait.
Bon, peu importe, en tout cas c'est des choses qui sont dites. Il y a des textes de Platon aussi. Mais en tout cas ce climat-là, donc c'est un climat local, qui est lié, tu l'as dit, au cycle de l'eau, en fait, à la façon dont le couvert forestier, végétal, capte l'humidité de l'air, le convertit en pluie, et donc ça a des effets en fait, d'entraînement, qui est ce qu'on appelle un climat. Et je crois que la science climatique contemporaine se donne un concept de climat qui n'est pas tout à fait le même. Alors, je ne veux pas du tout te dire « ça n'a rien à voir, en fait, c'est un effet d'homonymie », je pense qu'il y a un lien entre ces deux concepts de climat, bien qu'il n'ait pas tout à fait la même portée, bien qu'il ne soit pas tout à fait de la même facture, à la fois empirique et épistémologique. Et il y a une chose, par exemple, qu'on peut tout à fait t'accorder, je pense, sans trop de problèmes, c'est que climat est toujours, en fait, pour reprendre d'ailleurs une expression que tu utilises souvent, un lieu de réflexivité environnementale. En fait, on commence à se questionner sur les conséquences dans les milieux de ce qu'on fait, de notre action économique, politique, etc., quand on commence à regarder comment fonctionnent les climats. Et ça, c'est effectivement vrai à l'époque de Christophe Colomb, au 19e, aujourd'hui. Mais quand même, est-ce qu'il ne faut pas essayer de prendre en compte le fait que le concept de climat lui-même a quand même changé et qu'on ne se pose pas tout à fait les mêmes questions quand le concept de climat, c'est dérégulation géophysique planétaire qui sont liés aux phénomènes de construction de niches pour différentes espèces, etc., etc., et surtout un concept qui n'est plus du tout local. C'est-à-dire, enfin, on a discuté ce matin avec Andreas, que ce que les Anglais et les Américains ont fait pendant un siècle, ça a des conséquences dans les Caraïbes ou ailleurs. Tu vois, je pense que c'est... Bon, tu les connais,
c'est la remarque qu'on fait systématiquement.
Bah, je sais, je me doute bien qu'on te l'a fait à chaque fois.
Premièrement, sur l'aspect global, tendre le cou à ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, on pense au climat au niveau global. La Terre...
Ouais, mais là, t'as parlé de Christophe Colomb.
Penser la Terre comme un tout, on trouve ça chez Pline, on trouve ça chez Burnet de manière très très claire.
Ah, mais pas chez Christophe Colomb.
Non, pas chez Christophe Colomb.
Non, mais...
Mon histoire, c'est pas... Ok. Non, effectivement, pas chez Christophe Colomb. Et effectivement, Christophe Colomb n'avait pas des satellites, donc il ne pouvait pas connaître le climat comme on le connaît maintenant. Je serais obligé de vous l'accorder, mais ce n'est pas très intéressant de poser la question.
Non, mais je ne pense pas que ça, pour toi, ce soit...
Alors, la vraie objection que tu pourrais me faire, c'est de dire, en fait, ce dont je parle, ce n'est même pas de climat dont tu parles, c'est de zone. Parce que le climat, à la Renaissance, c'est quelque chose de fixe. Le climat, c'est une dimension astronomique. C'est lié à la position sur le globe. C'est ça, le vrai climat. C'est le climat, tout à fait. C'est l'angle, en fait. Bon. Et donc, si on voulait être pinaillé, si vous voulez, on pourrait dire, ah oui, ce dont il pense, c'est plutôt la modification de zone, c'est-à-dire le degré d'habitabilité de certains territoires en fonction de leur situation sur des zones. La zone, elle, n'est pas fixiste du tout. La notion de zone n'est pas fixiste. Par exemple, chez les érudits de la Renaissance, il y a cette idée que, comment ça se fait qu'il y ait des coins qui soient fertiles au fin fond de l'Égypte? Parce qu'il y a le Nil, et donc le Nil transforme le climat qui devrait exister d'un point de vue simplement astronomique et géodésique, dans une zone qui est habitable. Et cette jonction entre chaleur et humidité fait tout plein de prodiges, d'ailleurs. Donc, si on voulait vraiment être rigoureux, voilà, il faudrait parler, d'ailleurs, de l'invention du changement zonal à ce moment-là. Je pense que ça ne change pas grand-chose, si vous voulez, à l'argument qui est de dire, mine de rien, la théologie naturelle, alors pas Christophe Colomb peut-être, et encore que parce qu'il n'a pas écrit beaucoup là-dessus, mais il aurait écrit là-dessus, il l'écrirait sans doute comme ça, la théologie naturelle pense la Terre comme un tout structurellement organisé, avec des échanges de matière au niveau global, qui assure l'habitabilité ou la non-habitabilité de certaines zones. Et ça, ce n'est pas une affaire de climat ou quoi que ce soit, c'est une affaire de penser la Terre comme quelque chose qui a été créé. je pense que ça vient fondamentalement de là. Et ça, c'est la même ontologie, alors évidemment, modulo quelques changements majeurs sans doute, c'est l'ontologie du système Terre, où on s'intéresse aux flux de matière au niveau global et ce que l'humanité fait sur ces flux de matière.
Et tu comprends, ma question, elle portait sur le... Je sais que tu les connais, toutes ces questions-là, bien mieux que moi, mais la question, elle porte sur le rôle argumentatif qu'on fait jouer à ça, c'est-à-dire... parce que parfois, quand on t'écoute, on se dit... Alors, il nous le dit, en fait, ça a toujours déjà été comme
ouais,
ça.
Mais exactement, c'est exactement ça, mon point. Mais je ne suis pas sûr que tu voulais réellement dire ça,
parce que si tu disais ça, dans ce cas... Comme il n'y aurait aucune spécificité de la question climatique.
Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit qu'il n'y a aucune spécificité?
Non, tu ne l'as pas dit, mais ce que je veux te faire dire, c'est en quel sens, justement, on peut faire droit aussi à des discontinuités.
Ah bah alors c'est facile.
À l'intérieur de ce récit.
Première discontinuité, la simulation numérique. Là, la simulation numérique du climat. Ouais. 1950, John von Neumann, ça change beaucoup de choses en termes de prédire quand on change un paramètre, ouais. qu'est-ce qui se passe. Donc ça permet de faire des expériences, de penser plus précises, etc. Deuxièmement, les satellites qui permettent de donner un coup de sonde thermique sur une colonne du globe et montrer que le climat se réchauffe plus vite proche de la Terre que dans la stratosphère. Donc c'est pas le Soleil, on sait que c'est quelque chose qui vient de la planète. Troisième discontinuité, le fait qu'il y a des organisations internationales qui n'existent pas au 16e, 17e et 18e siècle. Le GIEC, effectivement, n'existe pas à cette époque-là. Quatrième discontinuité, on est capable de mesurer beaucoup plus précisément toutes ces choses-là. Bon, c'est tellement évident que je ne vais pas vous écrire. C'est sûr que la question du changement climatique ne se pose pas en 1800 comme elle se pose maintenant au XXIe siècle. C'est absolument évident.
C'est difficile, c'est curieux de dire ça sur le mode d'une
bah parce qu'il y a des bouquins, il y a Paul Edwards qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Vaste Machine, qui
montre
bien
que
la
dans
construction
ton récit, c'est important,
sur le changement climatique au XXe siècle.
C'est important de montrer qu'en fait, parce que toi, par exemple, je serais tenté de te dire que tu cèdes à ce que tu reproches aux gens de procès, c'est-à-dire que tu leur dis, ils cèdent au sublime de la découverte. En quelque sorte, on pourrait dire, tu cèdes au sublime de ta propre découverte, qui est celle de l'historicité, de la réflexivité environnementale, en disant, en fait, il y en a toujours eu. Ce en quoi, je pense, c'est absolument convaincant. J'ai aucun doute là-dessus. Seulement, je pense que, en même temps qu'on fait cette opération-là, on doit pouvoir faire, et je pense que tu es parfaitement en mesure de le faire, faire l'opération qui consiste à rendre manifeste les différentes variantes de cette réflexivité-là. Enfin, la preuve, je te pose la question et tu réponds tout de suite. Je pense que c'est tout aussi important, tu vois, parce que sinon, on se dit... Mais en fait, l'histoire n'est qu'une immense répétition en permanence du même.
Ah non, parce que quand j'explique que le climat, c'est un rapport avec la souveraineté espagnole, je ne pense pas qu'en ce moment, on dise que le changement climatique va dégrader les races qui vont être soumises au changement climatique. Donc je pense que non, enfin, je montre bien que ça s'inscrit dans des cadres qui n'ont absolument rien à voir. La controverse de Valladolid est très importante pour le texte de Fernandez de Oviedo, ouais. Et elle n'a pas de grandes répercussions.
Non,
il y a un point qui est important sur lequel je voudrais insister. Fernandez de Oviedo, il a écrit Historia Natural de las Indias, ouais. Et qui écrit plusieurs pages sur le changement climatique.
Oui, mais est-ce que c'est le mot changement climatique
hein? Oui.
Est-ce qu'il y a l'expression changement climatique?
Alors,
on
appelle ça dégradation des climatures, on appelle ça changement de climat. Enfin, il n'y a pas vraiment de problème de point de vue. Au XVIIIe siècle, oui, on parle de ça, sans problème. Au XVIIIe siècle, le climat, quand même, c'est une moyenne de température, hein, donc il n'y a aucun problème. C'est le même climat.
C'est le
même climat.
Oui, c'est déjà un concept moderne.
C'est déjà clairement. Là, on est obligé de raffiner parce qu'on part du XVIe, XVIIe siècle, fin XVIIIe, le climat.
Non, mais tu comprends le sens de ma question.
Enfin, eh ben alors, je comprends qu'il faut pas dire, évidemment, que l'histoire se répète tout le temps. Même s'il y a quand même des répétitions, et je pense que c'est important de le dire quand même, parce que prétendre redécouvrir des trucs en permanence, c'est quand même un gros problème et ça ne fait pas avancer le chemin public. Donc je pense que c'est important de dire quand même quand il y a des grosses ressemblances. Non, il y a un point qui est important, c'est de dire que de ces déballages, j'en ai pas parlé là, mais de ces débats, en particulier des débats français de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, émergent les méthodes qui sont encore avec nous maintenant d'enquête sur le changement climatique, en particulier la climatologie historique, l'étude des glaciers, qui est quand même assez importante, on va dire, maintenant. Ça s'invente à ce moment-là, quand même. Et c'est dans un débat qui pose déjà la question du changement anthropique du climat. Donc, faire une sorte de rupture énorme, parce qu'il y a des satellites, évidemment, c'est possible, mais on peut aussi très bien avoir un récit assez continuiste et montrer que ces savoirs sur le changement climatique, ils ont une très grande ancienneté, en fait. Et c'est pas des histoires de queue de cerise. Parce que le premier texte sur la théorie de l'âge glaciaire, c'est Ignace Venette, 1821, Alors, c'est une pré-théorie de la glacière, parce qu'il n'a pas la vision encore vraiment de la Terre avec des glaciers de 3 km de haut en Europe occidentale. Mais il s'interroge sur le fait qu'il y a eu des climats beaucoup, beaucoup plus froids dans un passé très lointain. Et il fait ça pour expliquer que la dégradation climatique qu'il est en train de vivre et que certains incriminent à la déforestation, en fait, c'est un épiphénomène dans l'histoire du globe, quoi. Et donc il fait une découverte absolument majeure pour l'histoire des sciences du système Terre dans un cadre de climat dont on parle en ce moment. Donc il y a vraiment une très forte continuité, en fait, au contraire des savoirs sur le changement climatique.
Oui, dans la continuité de ça, je voulais savoir si tu as intégré dans ta réflexion la notion d'acclimatation. Oui. Voilà. Et parce que quand on parle de race et quand on parle de nature, je pense qu'il faut vraiment en parler en lien avec ça. Et comment tu fais l'articulation changement climatique, acclimatation, sachant que ça pose, à mon avis, pas mal de questions assez intéressantes.
Oui. Alors, il y a déjà pas mal de bouquins, on est sur des sciences sur l'acclimatation, donc on ne va pas étudier à fond cet objet-là, mais en gros, c'est simplement, enfin, cette notion d'acclimatation, ça montre bien l'importance du climat dans la réflexion sur les êtres vivants et sur le fait qu'on peut transformer profondément les êtres vivants, les animaux, les plantes, en les changeant de climat. Quoi. Comment il s'appelle ? Je suis fatigué, là. Bon, ça me reviendra les références dont je voulais vous parler. Mais il faut bien voir que la colonisation, par exemple, est pensée comme une forme potentielle ou pas d'acclimatation. Est-ce que les Européens vont réussir à s'acclimater, évidemment, à tel climat ? Il y a des hygiénistes français des années 1930 qui expliquent que si coloniser l'Algérie, ça veut dire se transformer en Algérien, alors il ne faut pas y aller. Ça va avoir un effet néfaste, en fait, pour la race française. Donc on est encore dans un paradigme en 1930, dans un paradigme qui est lamarckien, hein, si vous voulez, tout simplement, de transformation des êtres vivants sous l'influence des climats.
J'avais juste une remarque. Là, si on raisonne non pas à l'échelle de du laboratoire, de la microplantation, mais disons à les Amériques, si je reprends ton titre sur Christophe Colomb, la découverte, c'est que finalement, en cristallisant la question sur la déforestation, est-ce que d'une certaine façon, on ne contribue pas à renforcer aussi justement l'image, cet imaginaire d'un territoire de nature sauvage, parfaite, abondante, etc. Et là, je pense un peu à ces travaux qui sont d'ailleurs issus des sciences, des scientifiques, climat, paléoclimat, etc., qui montrent que le premier choc climatique que toi, tu situes à Madère, c'est aussi avec la découverte, donc les microbes, le collapse de toute la population amérindienne, et que c'était des territoires qui étaient très... Voilà, qui étaient... Il y avait de la déforestation avant, et que finalement, la colonisation européenne va faire qu'il va y avoir une reforestation. Enfin, et donc, dans ce cas, voilà, c'était un peu cette remarque que je voulais faire sur... et que finalement, on contribue aussi à alimenter voilà, l'image de la nature pristine des Amériques, de cette façon.
Écologie avant Colomb, de telle ou telle île, de tel ou tel endroit. Ce qui est sûr, c'est que c'est perçu par Colomb, Oviedo, Martiré de Anguiera, Bartolomé Las Casas aussi, comme une déforestation. C'est-à-dire, ce qu'ils voient, eux, c'est qu'on coupe du bois quand on arrive dans les Caraïbes. Et ils sont admiratifs de la taille des arbres, de l'abondance des animaux, etc. Fernandez de Oviedo, dans Les causes du changement climatique aux Caraïbes, enfin, en particulier, il écrit à Santo Domingo, il parle de donc, la souveraineté espagnole, donc la sanctification de la souveraineté espagnole, une sorte de cause divine, disons, immanente. Et puis, il parle des raffineries de sucre. Il dit que ça brûle une telle quantité de bois, on ne peut pas imaginer la quantité de bois que ça brûle. Donc, c'est pas, à mon avis, enfin, comment dire, c'est pas à moi d'étudier ce genre de choses, quoi. Enfin, y a des écologues qui font ça bien mieux que moi, etc., des archéologues qui sont capables de vous dire la population en Amérique du Nord et d'Amérique du Sud à tel moment, etc. En tout cas, pour les Espagnols, et encore plus pour les Anglais, alors là, c'est hyper net. Mais c'est normal, parce que les Anglais arrivent aussi à un moment où il y avait déjà eu le choc démographique, et là, pour le coup, il y avait énormément de forêts. Oui. Quand les Américains, quand les Anglais arrivent en 1660, il y a sans doute beaucoup plus de forêts qu'en 1460. Pardon ?
Et eux, on n'en avait plus.
Et eux, on n'en avait plus trop, effectivement. Donc, vraiment, la colonisation est pensée comme une forme de déforestation.
Si tu voulais
rebondir... Ça dit, Bartolomé Las Casas, il écrit bien... la population était immense hein, avant que les Espagnols se réveillent, ça, il en a bien conscience. Donc,
Oui, c'est marrant, j'adhère au débat qu'il y a eu tout en ayant un peu la même réaction que toi. C'est vrai que c'est agaçant, quelqu'un là qui vient et puis qui nous casse les récits qu'on peut avoir. Et en même temps, moi j'ai l'impression que vous parlez de la même chose. C'est plutôt l'un parle, d'après moi, une différence de degré et l'autre de nature. Enfin, vous êtes sur un débat où je pense que tu donnes l'homologie du discours, une véritable homologie entre les discours qui... je parle bien d'homologie et non pas d'analogie. Et tu parlerais peut-être plutôt d'une montée en puissance de ce discours-là qui n'est pas transposable, donc différence de nature, de degré. Moi, je suis troublante. C'est vrai que c'est agaçant, quoi. Tu fais, mais mince, c'est troublant parce que c'est hyper convaincant. C'est vraiment hyper convaincant. Et moi, je trouve que c'est aussi quelque chose qui va tout à fait dans le sens de la journée que l'on interroge. C'est troublant que, en fait, il y ait cet argument que nous avons fort de dire qu'il y a une matrice qui se met en place, et on a parlé de Madère déjà ce matin, et qui se met en place avec l'univers plantationnaire ou de plantation, et qui est en même temps, de façon concomitante, je pense que tu es en train de nous dire quand même que ce discours de déforestation et d'influence sur le climat, etc., il n'est bien là, à ce moment-là. Tu vas peut-être chercher trouver des embryons, mais très embryonnaires avant. Mais il y a quand même, c'est troublant, cette concomitance entre le discours qui naît en même temps que là où ce contrôle, cette posture du contrôle humain sur la nature se met aussi en place de manière tout à fait... La machine est en route, là. Des Madères, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas suffisamment combien ce petit laboratoire, qui a d'ailleurs été lâché dès que tout a été transposé aux Amériques. Voilà, donc enfin, c'est ce que je voulais dire quand je dis c'est agaçant, c'est parce que c'est vrai que ça... C'est hyper intéressant.
C'est à cause d'Anthropocène, en fait. Moi, concrètement, là, dans le bouquin qu'on écrit avec Fabien, Anthropocène, on n'a rien à faire et on vous parle... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir... tous ces débats-là, ces discours en tant que tel, en tant qu'historien. Après, le lien avec les savoirs sur le changement climatique actuel, je trouve que c'est pas finalement la chose la plus... C'est pas le problème, quoi. Enfin, voilà. Enfin, je veux dire, on problématise sans doute différemment maintenant le climat qu'on problématisait au XVIe siècle. C'est tellement évident, mais enfin, dire ça, ça me semble
absolument évident. Parce que c'est exponentiel. C'est pour ça que vos discours sont compatibles, à tous les deux. C'est un changement qui n'est plus... C'est une histoire de degré, d'échelle, hein, tout bêtement, oui.
Après, il faut bien voir quand même que l'estimation d'Arrhenius d'augmentation de la température en fonction de la combustion, de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, elle est juste, hein, fondamentalement. On est à peu près à ça. Avec tous les efforts du GIEC et toutes les recherches qu'on a fait, on n'a fait que confirmer finalement, parce que c'était de la physique de base, hein, c'est de la physique qui est remontée à Fourier 1821. D'accord ? Donc c'est des savoirs qui sont fondamentalement vieux. C'est des vieux savoirs, les savoirs sur le changement climatique. Il n'y a pas de révolution, voilà, c'est pas la quantum mécanique, c'est pas la théorie de la relativité, ça n'a rien à voir, c'est des vieux savoirs, en fait. Voilà.
C'est la théorie aussi astronomique des climats.
Oui, il y a aussi ça qui est important pour la théorie des glaciations, c'est 1860, un truc comme ça. Non, ça c'est...
J'ai oublié de vous demander, là, ce matin, vous avez débattu tous les deux habitabilité, inhabitabilité. Je n'ai pas compris ce matin, et tu reviens sur habitabilité, là.
J'ai débattu ça.
Non, c'était des questions à Malm, en fait.
Dire, voilà, ça devient inhabitable, c'est un côté très violent, et extrêmement normatif sur qu'est-ce qui est habitable et pas habitable. Et ça me rappelait la posture des géographes de l'Antiquité ou de la Renaissance espagnole, là, qui disait, voilà, telle zone est dans la zone non habitable ou dans la zone habitable, et que c'est extrêmement compliqué de définir ce que c'est qu'une zone habitable et pas habitable, et que, voilà, c'était plutôt pour essayer de mettre un peu de relativiser ce déterminisme climatique très très fort, quoi.
Moi, peut-être très, très rapidement, si on pousse le curseur fin 19e, donc là, on va rentrer dans la deuxième expansion coloniale. Et moi, ce que j'observe, par exemple, à Madagascar, c'est la dualité des discours et des pratiques d'administration. En même temps, je ne suis pas spécialiste de ça, donc voilà, je pense qu'on pourrait raffiner, bien sûr. Mais avec l'idée qu'il faut préserver l'indigène, donc qui est naturalisé, bien sûr, de ce qu'il fait à la nature, hein, et il déforeste. Il déforeste. Et donc, il faut agir, hein, donc c'est la mission civilisatrice, il faut agir pour empêcher qu'ils mettent à sac, en fait, l'environnement. Mais dans le même temps, alors, peut-être pas dans ce territoire-là, mais en Côte d'Ivoire, par exemple, hein, ou dans l'ancien Congo belge, bah, les plantations, alors les plantations dans le sens peut-être presque anglo-saxon, hein, cacao, café, etc., font que la forêt va diminuer très très rapidement. Et en fait, dans le, ce qu'on pourrait appeler le post-colonial, dans les pratiques aussi de gouvernements locaux, et que ça continuait, hein, avec la globalisation, etc., et ça fait que si on prend quelques chiffres, donc c'est Philippe Hugon qui les donne, qui est économiste, qui les donne dans un livre sur l'Afrique, il dit... Côte d'Ivoire, du fait des plantations, par exemple cacao, café, etc., on passe de 8 millions d'hectares à 1 million d'hectares en un siècle à peu près. Alors on pourrait dire que c'est une vision catastrophique, etc., mais c'est quand même apparemment des faits vérifiables. Et bassin du Congo, donc avec l'Amazonie, qui est un des cœurs, des poumons, la planète, etc., il y a des centaines de milliers d'hectares qui partent chaque année, on sait bien pourquoi. Donc ma question, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin 19e, puisqu'effectivement on n'est plus dans le même moment scientifique aussi, hein, et des pratiques, hein, qui est encore, on l'a vu, un héritage d'un background très ancien. Est-ce qu'il se passe des choses nouvelles, et est-ce qu'il y a une influence de cette deuxième expansion sur les savoirs climatiques, la pensée de la forêt, etc.?
L'anxiété climatique reflue, je pense, globalement, dans la seconde moitié du 19e siècle, principalement parce que la théorie des glaciations commence à faire consensus, et il y a une sorte d'externalisation de la question climatique qui est liée effectivement à la théorie astronomique du changement climatique. On voit, plutôt que voir l'homme transformant activement le climat, on voit plutôt des sortes de grandes variations climatiques à l'échelle de dizaines de milliers d'années, où l'homme, la situation humaine, ne peut pas faire grand-chose, n'est pas responsable de ça et est pris là-dedans. Donc il y a plutôt, à mon avis, une phase de relative... on se rassure, quoi, très fondamentalement. Deuxièmement, il y a aussi l'aspect que le climat devient beaucoup moins important dans tout un tas de séries de disciplines, en particulier en médecine. La médecine climatique était très à la mode à la fin du 18e, mais plus du tout à la fin du 19e, puisqu'il y a bactériologie, il y a plein d'autres choses qui permettent d'expliquer les maladies que le climat et l'environnement.
On a la même chose... Il y a quand même la médecine tropicale qui est...
La médecine tropicale, non, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai.
Par les militaires, etc.
Mais on est quand même, avec la génétique aussi au début du 20e, il y a quand même cette idée qu'il y a une sorte d'identité des espèces qui est beaucoup moins malléable que ce qu'on pensait. Disons, voilà, c'est quand même cette vision-là du gène qui est protégé dans les cellules, etc., qui s'impose face à la vision d'un vivant très très malléable face aux influences climatiques. Ça n'empêche pas, et la question de la médecine tropicale est intéressante, que dans certains contextes, mais beaucoup plus locaux et moins sur, disons, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, on va dire, le climat est important. Par exemple, pour les forestiers, il y a un bouquin de Barton, The Forestry Empire, et j'étais surpris de voir ce qu'il traite, donc, quelque chose de très intéressant, c'est ces administrations forestières au Canada, aux États-Unis, en Inde, qui gèrent des millions et des millions d'hectares, quoi. À un moment, il donne un chiffre, je n'ai plus en tête, mais il y a eu 10 ou 15% de la surface terrestre qui était gérée par quelques administrations. C'est un truc absolument délirant. Et... eux, ils recyclent un peu les vieilles théories climatiques de la fin du 18e, les théories françaises, en fait, hein, de la fin du 18e siècle, pour expliquer que bon, bah, il faut maintenir la forêt. Ça leur permet de justifier, si vous voulez, leur emprise sur la forêt. Et donc, dans certains contextes, j'ai l'impression que le climat joue encore un rôle important. Mais là, pour le coup, je serais d'accord avec Pierre Charbonnier, c'est qu'on est plus, effectivement, sur des formes de climat local. On s'intéresse moins, à mon avis, à la circulation globale, à l'histoire de la Terre, parce que l'histoire de la Terre... elle est déjà beaucoup plus ancienne à la fin du 19e siècle. On est dans une théorie gradualiste de la Terre où la Terre a des centaines de millions, voire même des milliards d'années. Certains disent qu'elle est peut-être éternelle. Donc il y a ces idées de séparation, pour le coup, de l'histoire humaine et de l'histoire naturelle. Donc ce que raconte Chakrabarti sur cette grande séparation est vrai, mais en fait tard dans le 19e siècle, pas du tout au 18e siècle. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à la question.
Alors après, il y a des spécificités quand même, on pourrait dire nationales. Hein, ouais. Donc la voie colbertienne, par exemple, enfin voilà. Donc l'espace utile, la forêt utile, etc. Donc c'est des choses, effectivement, il y a une généalogie qu'on peut retrouver après dans des mondes exportés, donc les mondes coloniaux. Hein. Enfin, moi, je la retrouve, en tout cas, même si je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Il faudrait pas mal d'études, et je pense qu'il y a matière à faire. Hein. Mais on a deux siècles au moins. Hein, c'est pour ça que je parlais de l'État aussi comme acteur, et on l'a montré d'ailleurs ici, d'une certaine manière. Donc acteur aussi, hein, une pensée active de l'environnement, des hommes dans l'environnement, etc. Et il y a quand même une voix française. Après, les Britanniques, effectivement, il y a peut-être une autre... Je pense aussi qu'il y a dû y avoir des choses, parce qu'avec la prise de conscience de, il est nécessaire d'avoir une marine, après bon, la Grande Armada, etc. Fin 16e, forcément, la pensée étatique de... On part sur autre chose, hein, c'est plus tellement climat, hein, mais c'est plus des utilitarismes nationaux qui prennent des voies différentes liées en fait à des conjonctures particulières, mais qui ont eu des effets parfois... dans le temps.
Hein, toujours pour donner encore raison à Pierre, puisque c'est vrai que la plupart du temps, on trouve des arguments sur le climat, c'est pour justifier des choses tout à fait ponctuelles de gestion forestière, pour dire la vérité, pour dire la chose très simplement. C'est ça l'enjeu, c'est de justifier des politiques forestières. Et ça explique, à mon avis, justement, ce tropisme sur l'île. Il y a beaucoup de discours sur l'île qui viennent d'un texte de Richard Grove qui s'appelle Green Imperialism, où il explique que l'île est le laboratoire de la pensée tropicale parce que Pierre Poivre, pour la première fois, aurait pensé le changement climatique, parce que sur une île, ça se verrait vite. En fait, c'est pas vrai. Sur une île, l'essentiel de l'humidité vient de toutes les masses d'eau qu'il y a autour de l'océan. Et c'est plutôt un climat très continental où, effectivement, avoir une forêt, ça peut jouer un petit peu sur la précipitation, à la marge. Donc, il n'y a aucune naturalité pour que la réflexion sur le changement climatique commence sur une île. Alors, pourquoi ça commence sur une île? Parce que c'est vrai que c'est important ce qui se passe sur l'île Maurice ou Pierre Poivre. C'est pas parce que Pierre Poivre est un écolo, c'est parce que Pierre Poivre a pour mission de transformer. Il y aura un chapitre là-dessus dans le bouquin qu'on va faire avec quelqu'un très bien. Il a pour mission de transformer l'île de France, donc l'île Maurice, en arsenal. Et l'enjeu, c'est de prendre la revanche sur la guerre de 7 ans et piquer l'Inde aux Anglais. Et même Pierre Poivre a l'idée que si on a une marine bien approvisionnée avec beaucoup de bois pour pouvoir faire du radou, réparer les bateaux, alimenter une flotte, etc., on pourra même conquérir la Chine. Il y a vraiment des projets absolument grandioses à partir de cette petite île qu'est l'île Maurice, qui m'a toujours fasciné. Donc c'est vraiment la souris qui est aussi un plus gros que le... Pour faire ça, il a besoin d'expliquer aux colons qui veulent avoir plus de terre pour produire des cash crops, hein, du sucre, on disait quoi, du sucre et du café principalement sur ces îles-là, c'est à l'île Maurice. Il a besoin de les convaincre qu'il faut arrêter de déforester, alors que Delaforest, il avait encore des tonnes à l'île Maurice. Et il le dit très clairement dans une lettre à Pralin, en disant, sur l'île Maurice, il y a au moins encore les trois quarts qui sont forestés, on pourra encore couper autant que ce qu'on a coupé, c'est-à-dire arriver à la moitié, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème d'approvisionnement en bois, etc. Donc l'enjeu de l'argument climatique chez Pierre Poivre, c'est de justifier une immense réserve forestière que les colons ne veulent pas. En fait. Alors il y aura un autre enjeu qui s'inscrirait dans un... Donc c'est pour ça qu'en fait l'île Maurice, qui est vraiment hyper importante, parce que le discours de Pierre Poivre va influencer Bernardin de Saint-Pierre. Bernardin de Saint-Pierre passe à l'île Maurice. Et Bernardin de Saint-Pierre, là pour le coup, quand il parle de forêt et changement climatique, quand il en parle, vu que c'est un best-seller du XVIIIe siècle, là, ça a une influence sur tout l'espace européen, lettré, etc. C'est à partir de ce moment-là, véritablement, que ça devient évidemment une vulgate, si vous voulez, que couper la forêt, ça risque d'avoir des conséquences graves, hein, de dessiccation, etc. Donc c'est vraiment effectivement l'île qui joue un rôle important, mais parce qu'il y a cette conjoncture particulière de Pierre Poivre et de sa mission géostratégique de renverser l'Empire anglais et de conquérir la Chine. Parce que là, ce qu'on voyait grand à l'époque, quand même, hein, on n'était pas timide, quoi.